C'est donc ce matin à 11h qu'a été publié le rapport spécial du GIEC sur les conséquences du réchauffement climatique sur les océans et la cryosphère. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas réjouissant. Hausse du niveau des mers, chute des stocks de poissons, cyclones plus intenses, dégel du permafrost. Les effets catastrophiques du réchauffement climatique montrent le piteux état de santé des océans et des zones glacées du globe. Nous consacrons deux dossiers de la Terre au carré à ce rapport, avec aujourd'hui les résultats scientifiques et puis demain les impacts et les adaptations nécessaires. Vos questions dès maintenant à mon invité, le climatologue Laurent Bopp, au 01 45 24 7000, également sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, vous êtes toujours en duplex de la Côte d'Azur pour la Terre au carré, puisque vous avez suivi les scientifiques qui se sont réunis à Monaco pour travailler donc sur le résumé de ce rapport.
Et oui, bonjour Mathieu, et aujourd'hui je vais vous faire voyager avec les tout petits pays qui veulent eux aussi peser dans les rapports du GIEC, vous l'entendrez.
À tout à l'heure, dans la deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète, avec aujourd'hui Morgane, une auditrice qui a créé une plateforme de location de jouets éducatifs. Le feuilleton de la semaine avec un nouveau reportage d'Antoine Lee sur l'écologie dans les banlieues. Et puis enfin, mon invité découverte sera Thomas Braille, l'homme qui a passé 3 semaines perché dans un arbre face au ministère de l'écologie. Il vient de descendre, son action est terminée et on a appris ce matin que 16 arbres avaient été abattus à Condon dans le Gers. Voilà pour le sommaire de cette Terre au carré, réalisée par Valérie Ayestaraï, avec à la technique Stéphane Boja et Rémi Sistiaga.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Laurent Bopp.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes climatologue à l'Institut Pierre-Simon Laplace où vous étudiez le cycle du carbone dans les océans et ses liens avec le climat. Vous êtes notre invité donc pour commenter aujourd'hui les résultats scientifiques de ce nouveau rapport du GIEC sur les océans et la cryosphère, donc révélé ce matin à 11h. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les projections du GIEC sont très alarmantes. Est-ce que selon vous, d'abord, ce rapport qui a été résumé pour les décideurs va provoquer un électrochoc comme normalement il devrait le faire?
Alors on l'espère, c'est aussi un des rôles de ces rapports du GIEC, d'agir comme des piqûres de rappel pour nos décideurs, de encore une fois affirmer l'urgence de l'action.
On va de pire en pire, et pourtant finalement on a nous le sentiment en tant que citoyen, acteur de la société civile, que finalement les décideurs ne sont pas vraiment à la hauteur et ne donnent pas les réponses attendues justement à ces problématiques.
Alors j'ai aussi le sentiment qu'il y a une prise de conscience. Quand on discute avec des étudiants, avec n'importe qui d'ailleurs, on parle du changement climatique, donc la prise de conscience elle devient générale. Alors dans les actes, ça prend du temps, et la réponse du système climatique à nos actes, ça prendra encore plus de temps.
Oui, donc il faut vraiment pouvoir en discuter, faire de la pédagogie. Évidemment, sur un rapport comme ça, c'est aussi l'objet finalement, c'est de pouvoir diffuser l'information. Ça, c'est l'effort qu'ont fait d'ailleurs tous ces scientifiques qui sont réunis là à Monaco pendant plusieurs jours pour résumer et en sortir finalement les grandes lignes les plus compréhensibles aussi pour à la fois les décideurs et les citoyens.
Exactement. Donc c'est d'essayer d'expliquer le fonctionnement de ce système-là, que chacun comprenne bien ce qui est en train de se passer, alors dans l'océan, dans les zones glacées, en réponse au changement climatique, d'essayer de faire bouger les choses, évidemment, et puis d'offrir des solutions aussi. Alors vous en discuterez demain, vraisemblablement, mais il y a aussi ça dans le rapport du GIEC. Oui.
Alors juste un point de méthode pour qu'on comprenne bien, ce rapport c'est la somme d'un travail, évidemment, ceux de très très nombreux scientifiques, qui ont fait quoi? Qui ont compilé en fait des publications pour là aussi essayer de nous donner l'état de la connaissance à l'heure actuelle.
Voilà, c'est comme ça que fonctionne le GIEC. Le GIEC ne fait pas de recherche, mais il est mandaté par les Nations Unies pour rédiger ses rapports. Alors ici, c'est un rapport spécial sur l'océan et la cryosphère. Mmh. Et donc, pour rédiger ces rapports, le GIEC fait appel ici à une centaine de scientifiques qui ont travaillé ensemble pendant 2 ans et demi, et qui ont compilé, je crois, plus de 7000 publications scientifiques, la plupart très récentes. Et ensuite, ce rapport s'enrichit de commentaires de toute la communauté scientifique. Donc, c'est vraiment une œuvre collective, non seulement les 100 auteurs qui ont travaillé intensément pendant 2 ans et demi, mais aussi toute la communauté.
Voilà, et ces pays représentés, cette diversité de pays est extrêmement importante. On le voyait là à Monaco, parce que ça négociait justement aussi sur le résumé, sur la synthèse du rapport, et des petites îles étaient représentées, et leur voix est aussi importante que les grands pays en voie de développement.
Voilà, donc on peut d'abord dire que parmi les auteurs, il y a une grande diversité. Donc les auteurs, ce sont des scientifiques de toutes les régions du monde, et donc le GIEC essaye de représenter les scientifiques de toutes ces régions-là. Mmh. Et puis ensuite, il y a cette phase d'approbation qui a eu lieu la semaine dernière à Monaco, qui s'est terminée hier, où vous avez des représentants des gouvernements et ils vont discuter, négocier du résumé du rapport pour que ça soit plus clair principalement. De ce que j'ai compris de ce qui s'était passé à Monaco, ça a été une réunion très constructive.
Oui.
Et ce qui sort aujourd'hui de cette semaine de négociation, c'est un résumé pour les décideurs qui est plus clair, plus précis que ce qui était préparé auparavant.
Alors, Laurent Bopp, on pourrait presque faire ma thèse en 180 secondes. Si je vous demandais, tiens, de nous résumer finalement ce rapport, là, pour les auditeurs qui nous rejoignent, qui ne sont pas forcément au fait, d'ailleurs, de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine climatique, comment est-ce que vous pourriez nous le résumer, justement, et nous en sortir les très grandes lignes? On va rentrer dans certains détails avec vous dans un instant. Qu'est-ce qui vous semble important de retenir, vous, aujourd'hui?
D'accord, alors je vais faire trois points, peut-être. Ouais. Premier point, l'océan, et donc ça c'est ce que réaffirme le rapport, l'océan nous aide dans la lutte contre le changement climatique. Il absorbe de la chaleur et du CO2, et donc ça ralentit la vitesse à laquelle le changement climatique se développe. L'océan est notre ami dans cette lutte contre le changement climatique, c'est le premier point.
Mais quand tout va bien, non? Quand son rôle peut fonctionner normalement.
Et son rôle fonctionne aujourd'hui, il fonctionnera encore demain, peut-être un peu moins efficacement, mais l'océan va rester notre ami dans la lutte contre le changement climatique. Deuxième point, cette absorption de chaleur, cette absorption de CO2, met l'océan sous pression. La circulation, la chimie, la biologie, toutes ces composantes répondent au changement climatique avec des modifications très importantes et une accélération de ces modifications, c'est ce que nous dit le rapport. Donc c'est vraiment ce terme d'accélération des modifications observées dans l'océan. Mmh. Et le troisième point, c'est les projections. Pour demain, le rapport fait la synthèse d'un certain nombre de projections. Ce qu'il montre, c'est que les changements sont là, ils vont continuer à se poursuivre et se développer au cours des prochaines décennies, mais qu'on a encore l'avenir entre nos mains, et que si on réagit vite, on aura de grandes différences à la fin du siècle.
Sur quelle échelle de temps, finalement, est-ce qu'on est avec ce rapport qui nous envoie assez loin aussi? On est jusqu'à 2300, hein, quand même. Hein.
Voilà, donc les ordres de grandeur en termes d'échelle de temps, en général le GIEC regarde 2050, milieu du XXe siècle, et puis fin du XXIe siècle, 2100. Il y a aussi dans ce rapport-là un certain nombre d'éléments sur des échelles de temps plus longues, jusqu'à 2300. Ouais. En fait, on travaille, quand on s'intéresse à l'océan, avec un système très lent, qui va réagir lentement et qui va se développer. Donc ces changements, ils vont se développer sur des longues échelles de temps. Et donc, par exemple, sur le niveau des mers, on voit des changements très importants, même si on stabilise le climat, la température, on voit des changements encore très importants au cours du 22e et du 23e siècle.
Est-ce que ça n'ajoute pas justement de la difficulté quand on en est à parler du 22e ou 23e siècle pour sensibiliser évidemment les décideurs en particulier qui eux travaillent sur des échelles de temps beaucoup plus courtes?
Mais vous savez, déjà parler de 2100, c'est compliqué de sensibiliser là-dessus.
Et même 2050 quasiment.
Et même 2050. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que les actions qu'on va prendre aujourd'hui, en raison de l'inertie du système climatique, on en verra les effets pas avant 30 ans. Alors comment voulez-vous expliquer ça à un politique? Il faut décider et agir aujourd'hui, mais vous n'en verrez les fruits en termes d'impact sur le climat, d'impact positif sur le climat, que dans 30 ans.
Ouais, elle est là la difficulté au fond, non?
C'est compliqué.
Hein, c'est de pouvoir parler avec ces échelles de temps. Qu'est-ce qu'on appelle la cryosphère, tiens, pour aussi bien comprendre de quoi on parle quand on parle des océans et de la cryosphère?
Oui, alors le titre du rapport utilise le terme cryosphère. Ouais. Quand on parle de cryosphère, on parle des zones glacées, et donc elles sont multiples. Les calottes polaires sont des zones glacées, les glaciers de montagne, la banquise, la glace de mer qu'on retrouve en Arctique et en Antarctique, et puis le sol gelé, le permafrost.
Mais il y a un lien entre les océans et ces zones glacées du monde, justement, direct?
Il y a plein de liens entre les zones glacées et les océans. D'abord, la glace de mer, évidemment, elle repose sur l'océan. Et donc là, on a un lien très fort. Ensuite, on a un lien fort entre l'eau douce qui va être libérée par la fonte de ces zones glacées et le niveau des mers. Donc il y a un lien fort aussi entre le niveau des mers et les zones glacées. Donc dans le rapport, vous avez des chapitres séparés pour la cryosphère et pour les océans. Et évidemment, sont rappelés les liens entre ces grandes composantes du système climatique.
Lorsque les glaces fondent, par exemple, l'eau, elle, justement, retourne en grande partie vers les océans. Hein.
Exactement.
C'est pour ça que ce lien, il est très très important.
Ça dépend de quelle glace on parle. Si on fond un glacier en montagne ou la calotte polaire, donc les glaces qui sont posées sur les continents, cette eau va aller jusqu'à l'océan en grande partie et va faire monter le niveau des mers. Si vous fondez la glace de mer qui est déjà posée sur l'océan, ça n'a pas d'impact sur le niveau des mers. C'est l'histoire du glaçon qui fond dans votre verre de whisky.
Ouais. Lorsqu'on évoque la montée des océans, justement, Laurent Bopp, provoquée donc par le réchauffement du climat, quels sont les mécanismes en jeu là aussi pour qu'on comprenne bien comment fonctionne cette machinerie un peu complexe, mais facile à expliquer quand même?
Oui, donc il y a deux grands mécanismes. Celui dont je parlais, la fonte des glaces continentales qui apporte de l'eau à l'océan et qui fait monter le niveau des mers. Et puis le deuxième grand mécanisme, c'est ce qu'on appelle d'une façon un peu technique la dilatation thermique.
Ouais.
Parce que l'océan se réchauffe, il va occuper un plus grand volume. Et donc le niveau des mers en surface monte aussi.
Ouais. Les calottes polaires aussi, ça c'est un autre aspect important. Comment on les aborde justement dans ce rapport et en quoi c'est important aussi de les évoquer?
Voilà, donc les calottes polaires, elles font partie de la cryosphère. Quand je parle des glaciers de montagne et des calottes polaires, ce sont des glaces continentales qui, en fondant, vont apporter de l'eau à l'océan.
Ouais. Alors, le niveau des mers, est-ce qu'on peut dresser une carte aujourd'hui justement de l'avenir? Et évidemment, tout ça va évoluer selon les décennies, hein, entre 2050 et 2300. Mais est-ce qu'il va falloir redessiner finalement? Est-ce que déjà dans la tête des climatologue, on redessine autrement la carte du monde avec les informations dont on dispose là aujourd'hui.
Bien sûr. Ce qu'on peut dire sur le niveau des mers, et ça me semble être un résultat important de ce rapport, c'est qu'on observe une accélération de cette augmentation du niveau des mers, principalement en raison d'apports d'eau douce qui vient de la fonte de l'Antarctique. Il y a beaucoup de travaux sur l'Antarctique ces derniers temps. On se rend compte qu'il y a une certaine déstabilisation d'un certain nombre de glaciers antarctiques près des côtes qui amènent de l'eau douce à l'océan. Donc une montée du niveau des mers en raison de l'Antarctique. On est aujourd'hui à plus de 3,5 mm par an. Quand j'ai commencé mes études, on parlait de 2 mm par an, donc on a quasiment doublé la vitesse à laquelle le niveau des mers monte. Alors ça paraît très faible, hein, quelques millimètres par an par rapport à une vague, par rapport à une marée. En fait, c'est beaucoup, le niveau des mers a déjà monté de 15 cm, et donc dans les projections, on attend que le niveau des mers augmente encore, et là ça va dépendre du scénario. Si on parvient à limiter nos émissions, on peut s'attendre à quelques dizaines de centimètres en plus en 2100 par rapport à aujourd'hui. Si par contre les émissions continuent à augmenter, on pourrait dépasser le mètre d'augmentation du niveau des mers en 2100. Et donc ça, c'est aussi un nouveau résultat de ce rapport-là. Ces projections ont été revues à la hausse parce qu'on prend en compte cette déstabilisation importante de l'Antarctique.
Laurent Bob, vous êtes notre invité cet après-midi pour nous donner justement les grandes lignes de ce rapport paru ce matin autour des océans et donc des zones glacées du globe. Les auditeurs ont également des messages pour vous par téléphone au 01 45 24 7000, également sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. On se retrouve dans un instant, mais on reste évidemment autour de cette question du climat.
France Inter. La Terre au carré.
Camille passe au vert. Ça y est, le rapport du GIEC sur les océans est donc publié. Et vous avez suivi, Camille, pour la Terre au carré, bien toutes les discussions à Monaco. Et parmi les délégations présentes, eh bien, il y a de tout petits pays qui veulent peser également dans ces négociations.
Oui, des pays que vous auriez bien du mal à situer sur une carte, j'en suis sûre, même vous, Mathieu. Si je vous dis Nauru, Saint-Kitts et Nevis, la Grenade ou Saint-Thomé et Principe, par exemple.
Aucune réponse.
Des confettis dans les océans, Atlantique et Pacifique en l'occurrence, vous réviserez. Oui. Nauru et ses 14 000 habitants est l'un des plus petits états au monde, une île de Micronésie, mais présente donc dans l'auditorium au même titre que la Chine, les États-Unis, la France ou le Japon et ses 15 délégués, Cheryl Jeffers et Ariane Saint-Louis, elles sont à la tête des délégations de Saint-Kitts et Nevis et de la Grenade.
Délégation d'une personne seulement, ne vous emballez pas.
Vous êtes seule ?
Oui !
Une à une ?
Oui !
Délégation solo donc, leurs îles à elles sont dans les Caraïbes.
Nous avons droit d'être entendus, les impacts sont réels. Je ne veux pas du tout qu'on croie que les plus petits pays sont assis au fond en disant « Oh mon Dieu, regardez ce qui se passe !» Loin de là. Ici, nous avons l'opportunité de ne pas être des victimes.
Donc vous ne vous sentez pas petit ici ?
Non, non, parce que notre voix compte autant que les autres dans les réunions et nous sommes respectés. On est là pour rappeler à tous les participants qu'on a nous aussi un droit fondamental à vivre.
Et oui, puisqu'elle le disait, les conséquences sont déjà visibles, la montée des eaux en particulier.
À la Grenade, malheureusement, ça me brise le cœur. J'arrive à peine à en parler. Nous avons une zone sur la côte avec des sépultures. Elles sont désormais toutes sous l'eau.
Et même chose à Saint-Kitts et Nevis.
Les pêcheurs nous ont dit qu'ils devaient sortir plus loin en mer pour attraper des poissons et ils sont plus petits.
Et sans parler des ouragans ou de l'eau salée détectée, Mathieu, parfois dans l'eau douce. Alors à des milliers de kilomètres de là, au Fidji cette fois, je vous avais dit que je vous ferais voyager, Terry Atalifo, climatologue, venu avec deux autres Fidjiens, voit lui aussi les impacts.
Nous avons dû déplacer sur les hauteurs certaines de nos populations côtières. Donc on fait ce long voyage pour être sûr que nos problèmes, nos besoins et nos défis là-bas sont pris en compte dans ce genre de rapport scientifique.
D'autant que ces petits pays, dont l'Union fait la force, il arrive même qu'ils parlent d'une seule voix, ces petits pays donc subissent plus qu'autre chose.
Ce n'est pas nous les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, vous comprenez ? Mais ce sont nous qui en sentons les conséquences, parce que nous sommes les économies d'échelle les plus faibles.
Et pour eux tous, il est donc essentiel de se faire connaître et entendre au GIEC, et de passer des heures à prendre la parole autant que les autres, tant pis si c'est à l'autre bout du monde.
J'ai un super lit, j'adore ma maison, mes deux enfants, mon mari me manque. On s'occupe de nos chèvres, on a des poules, un jardin, de l'espace. Mais je suis partie pour venir dans votre beau pays à cause de l'importance des problèmes qui touchent notre territoire.
Son île où elle vient de repartir comme la plupart des auteurs et représentants des 195 pays du GIEC, Mathieu.
Merci beaucoup Camille Cronier. Donc on va poursuivre nous la discussion autour de ce rapport du GIEC. Puis vous rentrez à Paris demain, mais vous nous donnerez une dernière carte postale monégasque, je crois.
Oui, je m'amuse cet après-midi, je vais aller visiter les yachts, parce que souvenez-vous, il y a le Monaco Yacht Show qui commence aujourd'hui.
Ça promet, merci Camille Cronier.
À demain.
Voilà, dans un instant, Laurent Bob, donc mon invité, pour répondre à toutes vos questions sur les résultats de ce rapport spécial du GIEC dévoilé ce matin. 01 45 24 7000 et franceinter.fr sur la page de la Terre au Carré. Voici Angèle avec Les Matins.
Tout réveil au goût amer était un cauchemar, oh non, c'était bien hier. J'ai les yeux si rouges et bombés par la nuit ou par les pleurs. Trahisé au mauvais rêve, j'aurais bien aimé, mais non, c'était bien hier. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? Tes mains me manquent et moi, j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée. Pleurer. C'était toi, avant t'étais à moi. Quelques heures ou quelques verres et je dormirai, ou je dormirai jusqu'au prochain matin. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? Tes mains me manquent et moi j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée.
Les matins, c'était la voix d'Angèle.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Laurent Bob, vous êtes climatologue à l'Institut Pierre-et-Simon-Laplace et vous êtes l'invité de la Terre au Carré cet après-midi pour nous livrer les grandes lignes de ce rapport du GIEC, donc dévoilé ce matin, sur les océans et la cryosphère, donc les zones glacées du globe, hein, comme vous nous l'expliquez tout à l'heure. Les auditeurs nous rejoignent nombreux déjà au standard. On va passer aux questions dans un instant. On recevait un de vos confrères il y a pas très longtemps pour nous donner justement là aussi les résultats des simulations autour du climat. Je lui posais la question de savoir, en tant qu'individu, quand on est scientifique, mais qu'est-ce qu'on ressent quand même quand on a face à soi ces résultats et qu'on pense à ce que va devenir la planète dans quelques décennies ou dans quelques siècles. À titre là vraiment personnel, comment vous affrontez vous ces nouvelles qui sont franchement pas très drôles quand même?
C'est difficile et on est immergé dans ces résultats depuis souvent des années, voire des dizaines d'années. Je dois avouer que les marches sur le climat, la prise de conscience récente, ça fait du bien quand on est scientifique et qu'on travaille sur cette thématique-là. Je crois qu'on est sorti, vous savez, de la période où on devait lutter contre les climato-sceptiques pour convaincre. On n'en est plus à convaincre, je crois qu'on a dépassé ce stade-là. Et donc maintenant, allons vers les décisions, les solutions, essayons d'expliquer ce qu'on est capable de faire pour aller dans la bonne direction.
Quand vous voyez un Trump ou un Bolsonaro, vous pensez vraiment que les climato-sceptiques n'ont plus à être combattus ?
Alors en France, en tout cas.
Oui.
Aux États-Unis, ça reste très compliqué. Et dans d'autres pays du monde aussi, ça reste compliqué. Mais je crois qu'en France, on a réussi à passer ce cap.
Alain est en ligne avec nous. Bonjour Alain.
Oui, bonjour, merci d'avoir pris mon appel.
On vous écoute, bienvenue.
Bien, merci. On a doté chaque Français depuis 150 ans d'un véhicule à moteur. Le renouvellement du parc urbain, c'est 1% par an. Il faut 100 ans pour reconstruire, changer tout le parc urbain. Donc je crains que dans les 50 à 100 prochaines années, on soit incapable de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Donc le niveau des eaux va augmenter. Alors qu'est-ce qui... Déjà les glaciers dans nos Alpes et nos Pyrénées vont diminuer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y aura plus d'eau dans le Rhône en 2070 en plein été. Notre scientifique, qu'est-ce qu'il préconise pour garder de la ressource hydrique d'une part, et d'autre part, si le niveau des océans augmente de 1 mètre, 1 mètre, bon, en Bretagne, il y a des marées de 6 mètres, au Mont-Saint-Michel, 1 mètre, qu'est-ce que ça fait pour les populations littorales? Faut-il interdire de construire le long du littoral? Faut-il créer un fonds d'indemnisation pour les maisons qui n'auront plus le droit d'être habitées? Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger de quelque chose qui me paraît inéluctable, car...
Avec tout
le changement de modèle économique va prendre 50 ans. Il ne faut pas croire que... En claquant des mains, les gens vont isoler leur maison, acheter une voiture électrique et réduire leur consommation totale d'énergie. Donc, que nous dit notre scientifique que vous avez invité?
Alors, merci beaucoup Alain. Rien qu'avec toutes vos questions, on peut passer le reste de l'heure à vous répondre. D'abord, juste une petite précision. Alain nous disait qu'il n'y aura plus d'eau dans le Rhône en 2070. Je vous voyais froncer les sourcils.
Non, alors plus d'eau dans le Rhône, je ne crois pas qu'il y ait des résultats scientifiques qui montrent qu'il n'y ait plus d'eau dans le Rhône. Mais en tout cas, c'est sûr que les glaciers des montagnes européennes, et en particulier dans les Alpes, sont déjà très largement touchés par le changement climatique, vont continuer à l'être. Et ce que dit le rapport, c'est que dans les montagnes de moyenne latitude, type Alpes, on pourrait s'attendre en 2100, dans le cas du scénario du pire, à une baisse de 80% de la quantité de glace dans ces glaciers alpins, avec des conséquences évidemment très importantes sur la ressource en eau dans ces régions-là.
Autre indication que nous donnait Alain, la hausse du niveau de la mer. Il disait, on voit, c'est vrai, des marées qui peuvent varier de 6 mètres. Le rapport, lui, nous indique qu'on pourrait dépasser 1 mètre en 2100. Là aussi, on a du mal à se représenter concrètement ce que ça veut dire, alors.
Alors peut-être que pour l'illustrer, on peut se référer à des événements extrêmes, des événements d'inondation qui sont liés, vous savez, à ces grandes tempêtes. On peut se rappeler Xynthia, malheureusement. Ce que dit le rapport, c'est que ce type d'événement va être amplifié par la montée du niveau des mers. La surface qui va être inondée pour une tempête type Xynthia, ça sera nettement plus important si vous rajoutez 50 cm ou 1 mètre de niveau marin. Ce que dit le rapport, c'est que ce type de tempête et ce type d'inondation, on a parlé d'événements centennales. Un type d'événement de ce type, de ce type-là, tous les 100 ans.
Ouais.
En 2050, ça pourrait être tous les ans, ce type d'événement, parce qu'on rajoute quelques dizaines de centimètres de niveau des mers.
Mais qu'est-ce qui agit là pour qu'on comprenne bien entre le niveau de la mer et une tempête, alors finalement? C'est quoi les interactions?
Alors la tempête, elle va générer des vagues très importantes. La basse pression, qui correspond à la dépression, va aussi faire monter le niveau des mers. Et puis par-dessus, vous rajoutez une augmentation moyenne du niveau des mers. Et donc ces trois éléments se combinent. Dépression, les vagues en lien avec les très forts vents et cette montée du niveau des mers. Si vous rajoutez 20 cm ou 30 cm, vous allez aller beaucoup plus loin sur les côtes.
Rolf, bonjour, merci d'être avec nous en ligne.
Oui, bonjour.
On écoute votre question, bienvenue.
Alors moi j'ai une question sur les mesures qu'on peut prendre pour notre planète. Et il me semble qu'il y a deux types de mesures. Il y a les mesures qui nous donnent bonne conscience. Celle qu'on prend actuellement, c'est les petites bricoles qu'on fait à droite à gauche, mais ça n'a pas d'effet vu que la situation se dégrade de plus en plus. Et il y aurait des vraies grandes mesures à prendre, mais il faut être courageux pour les prendre et on ne les prendra pas avant d'avoir vraiment de l'eau sous le nez. Et je pense qu'on devrait décréter une mobilisation générale, comme en temps de guerre. On va se faire envahir par une montée du climat. Il faudrait qu'on mette toutes nos ressources et puis on ne le fait pas. Pourquoi ?
Alors Laurent Bopp, à vous de répondre, vous avez la lourde tâche de répondre à Rolf qui préconise donc une mobilisation générale pour le climat.
C'est difficile, on parlait d'échelle de temps, difficile pour les hommes politiques j'imagine de prendre des décisions souvent impopulaires, on peut se rappeler des épisodes de la taxe carbone qui vont avoir leurs effets que dans une trentaine d'années, donc c'est difficile. Je crois quand même que cette prise de conscience, elle est positive. On a quand même eu l'accord de Paris il y a maintenant presque 4 ans, les pays se sont engagés, un certain nombre de ces pays ont mis en place des actions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut faire plus que les engagements. Et il faut continuer à avancer dans cette direction-là. Donc je crois qu'il faut rester optimiste. Ce que dit le rapport, c'est qu'il y a de très grandes différences entre les différents scénarios. Si on laisse aller et que les émissions continuent à augmenter, on va vers peut-être un mètre de montée du niveau marin. Si par contre, on est capable de réduire les émissions, comme le préconise l'accord de Paris, comme l'explique encore une fois ce rapport du GIEC, on peut limiter cette montée du niveau des marins à la fin du XXIe siècle. On peut limiter l'occurrence d'événements extrêmes. On peut limiter les impacts sur les écosystèmes marins. Donc il faut rester optimiste et il faut continuer à pousser. C'est ce que font les jeunes dans la rue avec les marches sur le climat. C'est ce que nous faisons scientifiques. C'est ce que vous faites dans les médias. Donc il faut continuer dans cette direction-là.
Merci Rolf pour votre intervention. Un message de Jean-Marie sur Facebook qui nous dit: en vous écoutant m'expliquer qu'on fonce dans le mur, je regarde la mer depuis ma fenêtre, la baie de Marseille, les îles du Frioul et à l'horizon la torchère de la raffinerie Ineos de Martigues et son panache noir. Voilà, c'était juste un témoignage de la part de Jean-Marie. Laurie sur l'application de France Inter: quid de la disparition du Gulf Stream? Je crois qu'on a Thérèse également qui a une question à ce sujet. Bonjour Thérèse.
Bonjour.
Bienvenue à vous et Laurent Bob vous écoute.
Eh bien, moi je lis de temps en temps un article sur le Gulf Stream et on en est toujours, pour moi, à ne pas savoir s'il va changer de sens ou pas. L'eau chaude remonte de l'équateur le long de nos côtes, c'est pour ça qu'on a un climat assez doux. Elle va se refroidir en Antarctique et redescend le long des États-Unis où ils ont des hivers épouvantables. Est-ce que ça restera comme ça? Est-ce qu'on en sait quelque chose?
Alors, la réponse de Laurent Bopp. Donc la description de Thérèse était exacte?
Presque exacte. Bon. On en sait quelque chose.
Ouais.
Donc le Gulf Stream, c'est un courant de surface qui intéresse les premières dizaines de mètres de l'océan et qui est mis en mouvement par les vents. Par les vents d'ouest. Vous savez, les vents qui soufflent des États-Unis jusqu'à l'Europe, les vents qui nous amènent les dépressions et les anticyclones. Les vents, ces vents d'ouest, ils vont continuer à exister, donc on va continuer à avoir un Gulf Stream au cours des prochaines décennies, au cours des prochains siècles. Il y a des discussions sur l'intensité du Gulf Stream et sur un léger déplacement du Gulf Stream vers le nord. Mais le Gulf Stream va continuer à exister, il n'y a pas de doute là-dessus. On se pose des questions, par contre, sur la formation d'eau profonde en Arctique, dans les mers nordiques, au nord de l'Islande, à l'ouest de la Norvège, on forme des eaux profondes qui circulent cette fois-ci en profondeur et qui amènent de l'eau froide vers les tropiques et donc qui participent à cette redistribution de l'énergie entre pôles et tropiques. Et donc ce grand courant marin, cette eau profonde nord-atlantique, on a des observations dans le passé très lointain qui nous montrent que ça a varié et on peut s'attendre à un ralentissement de cette formation d'eau profonde. Ce que dit le rapport du GIEC, c'est qu'on peut s'attendre à un ralentissement, c'est ce que nous disent les modèles climatiques, mais pas à une transition abrupte, pas à un collapse de cette formation d'eau profonde.
Il y a une question de Jocelyne sur franceinter.fr sur les vagues de chaleur océanique dont on parle également dans ce rapport. C'est nouveau, ça veut dire quoi? Une vague de chaleur océanique?
Alors il y a un certain nombre de résultats scientifiques intéressants, peut-être même effrayants, au cours des dernières années qui ont documenté ces vagues de chaleur océaniques. Il y a des exemples fameux. Il y a un exemple fameux au large de la Californie.
Oui.
Les scientifiques ont parlé du blob. On a eu pendant presque 2 ans une masse d'eau très chaude qui était étendue sur une grande région, 2-3 degrés plus chaud que la normale, avec des impacts sur les écosystèmes.
Donc ça dure très longtemps, 2 ans.
Voilà, ces vagues de chaleur océaniques, parce que l'océan se mélange très lentement, durent beaucoup plus longtemps que les canicules dont on a l'habitude de parler. Et donc ces vagues de chaleur océanique, il a été montré qu'elles sont en grande partie liées au réchauffement climatique anthropique. Donc on peut s'attendre à une augmentation de la fréquence de ces vagues de chaleur océanique avec des impacts sur les écosystèmes.
Ralf Eric, vous êtes également en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Merci de m'écouter. Je ne suis pas très compétent, mais je suis très surpris par l'accélération qui semble exister pour la dégradation globale de tous les problèmes, enfin autant de la faune, de la flore, de l'eau, bref, tout ça. Je me pose la question, depuis 50, il y a 50 ans, c'était pas du tout comme il y a 20 ans, en 20 ans, il semble qu'on ait fortement aggravé l'accélération de la dégradation, et je me demande si on a une idée du futur de cette accélération. Est-ce que cette accélération peut avoir un caractère augmentatif très très fort, enfin, auquel cas il faudrait peut-être se faire beaucoup, beaucoup plus de soucis que nous n'en faisons aujourd'hui.
Allez, votre voilà. Réponse, Laurent Bob. Merci, Ralph Éric.
Oui, on se fait des soucis et c'est ce qu'on explore avec les modèles climatiques. On explore différents types de scénarios. Des scénarios dans lesquels les émissions continuent à augmenter jusqu'en 2100 et puis des scénarios où on est capable, collectivement, d'atténuer le changement climatique en faisant baisser les émissions jusqu'à zéro d'ici 2050. Et on a des très fortes différences entre ces scénarios. C'est ce qui peut nous laisser espérer qu'on soit capable de maîtriser ce changement climatique. Pour juste avoir une idée rapide, si on laisse les émissions filer à la fin du siècle, c'est plus 5, plus 6 degrés peut-être de température, d'augmentation de température. Et si on est capable de limiter les émissions, peut-être seulement plus 1 ou plus 1,5 degrés.
Merci Laurent Bob d'être venu aujourd'hui pour cette première partie de ce dossier consacré donc aux résultats du rapport du GIEC sur les océans et les glaces. Et on continuera demain, deuxième partie, avec d'autres questions. N'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer vos messages. Dans un instant, vos solutions pour la planète avec une auditrice Morgane qui a créé une plateforme autour de la location de jouets éducatifs.
France Inter, la Terre au carré.
Au menu de cette demi-heure ensemble, un nouveau reportage sur l'écologie en banlieue avec aujourd'hui une association qui s'appelle Les Fourmis Vertes et qui fait de la sensibilisation à l'environnement. Et puis notre invité découverte est Thomas Bray qui a passé 3 semaines dans un arbre en face du ministère de l'écologie et qui a décidé de descendre aujourd'hui. Mais pour le moment, vos solutions pour la planète et nous sommes en ligne avec vous Morgane. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue, vous nous appelez de Vierzon. Et Morgane, vous avez fondé Lib et Lou, c'est une plateforme qui propose de louer des jouets éducatifs. Alors racontez-nous quelle était l'idée au départ pour vous.
Alors en fait, c'est parti d'un besoin personnel. À la naissance de ma deuxième fille, j'avais déjà beaucoup de choses et mes envies de maman avaient changé. Et du coup, j'ai voulu proposer autre chose, d'autres jeux. Et je me suis dit, je vais pas en racheter, j'en ai déjà plein. J'avais pas beaucoup de temps, donc pas vraiment le temps de faire les brocantes, les sites de vente en ligne. Donc je me suis renseignée sur la location de jouets et je n'ai pas trouvé de moyen de louer des jouets, sachant que je n'avais pas de ludothèque à côté de chez moi.
Et donc là, vous avez dit qu'il y avait quelque chose à faire.
Exactement, je me suis dit, mais c'est étonnant parce que on a besoin de changer de mode de consommation. Et la location a tout son sens, notamment chez l'enfant.
Vous avez fait une étude de marché pour essayer de voir justement si ce projet pouvait fonctionner. Comment est-ce que vous avez mis les choses en place? Parce que vous n'étiez pas destiné a priori à créer une telle plateforme au départ.
Pas du tout. En fait, je venais du milieu du soin. Je travaillais en pédiatrie, en milieu hospitalier.
Oui.
Et en me renseignant, j'ai découvert qu'en fait, il y avait une réalité, c'est qu'un enfant de 6 ans possédait en moyenne 120 jouets.
Oh là.
On se rend compte que c'est énorme.
Oui.
Et il y a un autre chiffre qui est assez parlant, c'est qu'entre le moment de l'achat du jouet et la poubelle, il y a en moyenne 8 mois. Ce qui fait 75 000 tonnes de jouets par an qui sont jetés. Donc d'un point de vue écologique, c'est une catastrophe. Mais d'un point de vue de l'enfant, c'est pas beaucoup mieux parce que depuis 2018, il y a eu une étude qui a prouvé ce dont on se doute tous, c'est-à-dire que un enfant qui a beaucoup de jouets ne va jouer moins bien qu'un enfant qui a peu de jouets. En fait, l'excès de jeux nuirait à la créativité, au bon comportement de jeu de l'enfant.
Ça a été prouvé par des scientifiques. Il y a vraiment eu des travaux qui ont été faits sur la question.
Oui, il y a eu une étude en 2018 sur cette question-là.
Ouais. Donc la question du jouet, c'est un vrai sujet écologique, effectivement, parce qu'effectivement, vous le disiez, il y en a énormément dans les chambres des enfants. Et donc l'idée d'en louer, c'est plutôt une bonne idée au départ. Alors racontez-nous cette plateforme, donc elle existe maintenant, vous l'avez mise en place?
Oui, en fait la plateforme existe, donc ça s'appelle libellou.com. En fait, c'est très simple. L'objectif, c'est de pouvoir fournir aux parents les jeux qui sont adaptés au développement de leur enfant. Donc vous allez sur le site, vous sélectionnez les jeux éducatifs qui correspondent à l'âge de vos enfants, vous les recevez et quand vous en avez plus besoin, vous les renvoyez avec une facturation à l'usage.
Est-ce que les parents sont vraiment enthousiasmés par cette idée-là, le fait d'acheter des jouets qui ont déjà servi? Est-ce que c'est quelque chose, un acte d'achat, ou en tout cas d'achat, de location précisément, qu'on fait facilement?
Oui, alors déjà les parents sont de plus en plus sensibles à la question de l'occasion, puisqu'on sait que notamment il existe des sites en ligne de vente de jeux d'occasion, et on se rend compte au fil des rencontres que les gens ont déjà une habitude de l'occasion, mais qui peuvent rencontrer des freins qui sont souvent le temps passé à faire les petites annonces ou le temps passé à faire les brocantes. Et le deuxième frein, c'est également qu'est-ce qu'on en fait après. Donc ça demande de trier les chambres, de renvoyer. Mais en tout cas, je crois que les parents aussi prennent de plus en plus conscience qu'il faut de toute façon changer notre mode de consommation et que c'est pas forcément un cadeau à faire aux enfants que d'arriver continuellement avec les bras chargés d'objets, comme on l'a dit tout à l'heure.
Morgane, votre plateforme, elle fonctionne sur le principe de l'économie circulaire, hein.
Tout à fait. On a été d'ailleurs, on a répondu à un appel à projet, on a été soutenu par l'ADEME dans ce cadre-là, puisque l'objectif c'est de rallonger la durée de vie du jeu et de faire profiter donc plusieurs familles, faire que le jeu serve à plusieurs familles.
Comment vous avez constitué votre stock de jouets? Vous les récupérez où alors ces jouets?
Alors, les jeux, ils sont achetés majoritairement à des fournisseurs. Donc, on sélectionne les fournisseurs en fonction de leur politique, notamment écologique, la provenance des bois, la possibilité d'avoir des pièces de rechange, puisque c'est important.
Ouais.
Et nous avons également aussi acheté une partie du stock à une association qui s'appelle Rejouer et qui fait de la revalorisation de jouets via un chantier d'insertion.
Elle se trouve dans votre département du Cher aussi ?
Pas du tout, elle se trouve en région Île-de-France.
D'accord, puisque vous êtes à Vierzon, hein. L'atelier en tout cas est à Vierzon.
Oui, la société est à Vierzon et on est accompagné par le Technopole de Bourges en ce qui concerne le développement de l'entreprise. On se rend compte vraiment qu'il y a un enthousiasme au niveau des parents, on a de plus en plus de demandes et on a des enjeux que l'on doit franchir avec succès dans les prochains mois. C'est notamment la proposition d'une carte cadeau, puisqu'à l'approche de ces fêtes de Noël, on sent que beaucoup de gens se questionnent notamment sur qu'est-ce qu'ils vont offrir aux enfants à Noël et se rendre bien compte que c'est pas forcément une bonne chose que d'acheter un jouet qui va pouvoir servir que quelques semaines.
Justement, Morgane, vous faites très attention aussi à la question des matériaux utilisés pour les jouets, sur le plastique en particulier.
Alors, en fait, au départ, on s'était dit qu'on allait faire donc on a utilisé que des jeux en bois et finalement on est revenu un petit peu là-dessus. En fait, on n'utilise que des jouets en bois ou certains jouets en plastique mais qui ont des hautes qualités d'un point de vue éducatif parce qu'on est parti vraiment sur des jeux qui sont liés à un développement de l'enfant et donc à des développements des compétences. Par exemple, un puzzle, ça n'a aucun intérêt de posséder un puzzle. Une fois que l'enfant le maîtrise, il a besoin de passer à autre chose et être nourri d'autre chose. Donc, surtout du bois, quelques jeux en plastique, mais parce qu'ils ont des qualités pédagogiques intéressantes. Et l'autre chose qui est importante aussi, c'est de pouvoir éduquer l'enfant à l'usage plutôt qu'à la possession. C'est-à-dire de se poser la question, est-ce que j'ai besoin de posséder ? Et finalement, est-ce que l'usage n'est pas plus important ?
Voilà, donc la location de jeux et de jouets avec Lib et Lou, ça c'est votre plateforme que vous avez créée. Félicitations à vous Morgane, donc c'est libelou.com.
Merci beaucoup.
Pour ceux qui souhaitent justement louer et savoir comment ça fonctionne, pour avoir tous les détails justement sur les modalités. Merci beaucoup Morgane, et puis pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, si vous aussi vous avez des solutions pour la planète, vous pouvez passer bien sûr par le site de la Terre au Carré pour nous en parler. Antoine Lee, bonjour.
Bonjour Mathieu.
On poursuit avec vous aujourd'hui votre série sur l'écologie en banlieue et vous nous parlez d'une association, les Fourmis Vertes.
Les Fourmis Vertes sont nées il y a 10 ans. La première d'entre elles, c'est Marie-Noëlle Bott. À l'époque, elle travaille dans le design, mais elle s'ennuie cruellement. C'est à ce moment-là qu'elle souhaite donner un sens à sa vie. Elle décide alors de faire de la sensibilisation à l'écologie. Aujourd'hui, elle et son équipe se rendent dans les cités de banlieue à la rencontre de la population. Les Fourmis Vertes leur parlent de tri, de recyclage, de climat, de consommation raisonnée, des échanges pédagogiques qui prennent parfois la forme de sketch. Je les ai retrouvés pendant une de leurs interventions dans un quartier de Draveil dans l'Essonne.
Messieurs, dames, bonjour. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. En fait, on est venu vous parler des déchets. Pendant un an, on jette entre 400 et 500 kilos de déchets par personne.
Vous êtes en plus dans le bon quartier,
oui,
ici.
Il y en a plein. Hein. Pourquoi, par exemple?
Je sais pas, les gens, ils mélangent tout, déjà. Et puis, le verre, le plastique, la batterie qui pollue tout partout.
Vous allez voir, on peut faire en sorte d'avoir moins de déchets.
Marie-Noëlle Bott, quel est l'accueil qu'on vous réserve en cité?
C'est vrai que des fois, en allant dans les cités, on se dit « Oh là là, on va nous prendre pour des bobos et nous envoyer balader et tout ça ». Eh ben non, pas du tout. Même des fois, on est étonné des publics vraiment qu'on pourrait croire très très éloignés. C'est arrivé même des dealers dans des nuages de marijuana qui étaient très intéressés, qui nous posaient des questions et pour leurs enfants, etc. Ou quand on se retrouve avec une rangée de femmes voilées, où on voit que les yeux juste devant nous, on ne sait pas à qui on parle. Mais il y a toujours de l'intérêt.
En tout cas, tous les déchets doivent finir dans la poubelle.
Et pas par la fenêtre.
Dans la poubelle. Et pas par la fenêtre.
Comment tu t'appelles ?
Tara Kamel.
T'as quel âge ?
9 ans.
Ici, dans la cité, on parle pas trop d'écologie, de recyclage ?
Non, j'en ai jamais entendu parler. Je passe dans le quartier et tout ça pour aller à l'école et tout ça. Et je vois des déchets par là, par là. Des fois, il y a quelqu'un, il m'a dit, je lui ai dit, mais pourquoi tu jettes ça? Il y a une poubelle juste devant toi. Il m'a dit, oh, on s'en fiche, on s'en fiche. Je lui ai dit, jette dans la poubelle, je l'ai ramassé, je l'ai jeté.
Bah, faut continuer comme ça, hein.
Merci.
Merci à toi.
À vous, merci.
Donc, en fait, on a une mission super importante. Toi, toi, toi aussi. C'est de jeter ces déchets recyclables. Pas dans la poubelle qui va aller à l'incinérateur, mais dans l'autre poubelle qui n'est pas de la même couleur. En fait, grâce à nous, ils auront une deuxième vie.
Pourquoi vous avez décidé d'intervenir dans les quartiers populaires ?
En fait, on ne l'a pas décidé. C'est les commanditaires, qui sont les bailleurs sociaux, les villes, qui nous demandent d'intervenir dans les banlieues. C'est là où peut-être sont plus concentrées les problématiques liées au mieux vivre ensemble, l'habitat collectif, etc.
Tu savais que le chewing-gum est en plastique ? Ah, tu le savais ? Si le chewing-gum est en plastique, beaucoup de gens les jettent par terre. Je voulais que je vous donne un secret.
Ouais.
La fabrication du chewing-gum, c'est fait comme les pneus des voitures. C'est la même recette.
Vous habitez le quartier depuis combien de temps, madame ?
Ça fait 10 ans et demi maintenant. À la poubelle, en fait, les gens, ils mélangent tout. Je crois qu'il y a besoin de temps. Parce que les gens, comment ils travaillent, en fait ? De matin à soir, ils n'ont pas le temps de faire le tri.
Et nous, on explique que justement, c'est pas parce qu'on a des problèmes de boulot, on n'a pas le temps, on est fatigué, il y a les gosses, il faut faire les courses, etc. C'est pas une raison pour en rajouter en plus. Des problèmes d'environnement, et d'eau qu'on peut pas boire, et d'air qu'on peut pas respirer, et de pollution.
Est-ce qu'à travers votre association Les Fourmis Vertes, vous avez le sentiment qu'on est moins sensible à l'écologie dans les quartiers, dans les cités, que dans des milieux peut-être un peu plus aisés ?
Non. Personne ne nous demande d'intervenir dans les quartiers riches, parce que les riches, ils savent tout, ils ont de leçons à recevoir de personne, donc personne ne financera nos actions de sensibilisation dans les quartiers riches. Ben, c'est idiot parce que, en fait, les riches sont aussi des grands pollueurs et des grands gaspilleurs. En fait, on dit qu'en matière d'écologie, d'environnement, ce sont les deux extrêmes qui polluent le plus, pour des raisons très différentes. C'est les plus pauvres, les plus démunis et les plus riches.
Il va encore pleuvoir des déchets
dans la poubelle et pas par la fenêtre. Dans la poubelle et pas par la fenêtre.
Et comme tous les jours, Antoine, on peut retrouver les photos de votre reportage et celle des fourmis vertes en particulier sur la page Facebook de La Terre au Carré.
Et elles m'ont demandé de faire une petite annonce. L'association cherche un webmaster pour refaire bénévolement leur site internet. Contactez-nous, on vous mettra en relation avec elles.
À demain Antoine pour votre dernier reportage. Dans un instant, je reçois Thomas Bray, l'homme qui a passé 3 semaines dans un arbre face au ministère de l'écologie à Paris pour dénoncer un abattage d'arbres dans une commune du Gers. Et bien justement, ces arbres sont abattus depuis ce matin. On en parlera également avec le maire de Condon qui sera avec nous en ligne. Ce sera après The Teske Brothers.
I'm so good on you, 'cause I'm so good on you.
Inter, la Terre au carré.
Les arbres, évidemment, ils marchent pas, ils font pas de bruit. Donc, ils sont pas vivants, voilà. Les gens, c'est aussi simple que ça, ce raisonnement. Ça me convient pas, bien sûr. Ils vivent beaucoup plus longtemps, ils savent faire beaucoup plus de choses. Ils ont des quantités de sensibilité que nous n'avons pas. Et ils ont, en plus, toutes les sensibilités que nous avons.
La voix du biologiste Francis Allais. Bonjour Thomas Braille.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
On va dire mal. Parce que ce matin, on a appris une triste nouvelle. Voilà, donc on a appris que les arbres de Condom ont été abattus en toute illégalité.
16 arbres.
16 arbres, voilà. Donc on a réduit un petit peu le quota. On n'a jamais su vraiment le quota que c'était. C'est passé de 32 à 9 à 16. Voilà, maintenant c'est 16 aujourd'hui. Bon, on est content. On en a gagné quelques-uns, on va dire, sur les 25. Mais je suis déçu de voir comment on arrive à se comporter, quoi.
Vous avez passé 3 semaines dans un arbre au boulevard Saint-Germain à Paris, en face du ministère de l'écologie, pour justement dénoncer l'abattage de ces arbres dans la commune de Condom, donc dans le Gers. Vous êtes en colère, vous pensez que c'est un échec finalement ce que vous avez fait pendant 3 semaines, ça n'a servi à rien selon vous?
Alors 4 semaines.
4 semaines.
Ouais. Et 28 jours. Bien sûr, alors ça a servi à rien non, j'ai pas envie de dire ça, parce que forcément, je pense que par cette action, j'en ai pas encore pris la mesure parce que je suis descendu au sol et que j'étais un petit peu coincé là-haut, mais apparemment ça a beaucoup parlé. Mmh. J'espère qu'à partir de maintenant, on aura une autre vision des arbres, qu'on les considérera comme des êtres vivants. Là où je suis bien entendu déçu, c'est de voir que je me trouvais à 50 mètres à vol d'oiseau du ministère de la Transition écologique. Personne n'est venu me voir. Personne. Personne. Mmh. On nous parle de réchauffement climatique, on nous parle de faire des petites actions pour la planète, de se bouger. Vous voyez, moi, c'est un père de famille qui est parti dans un arbre pour alerter sur un article de loi qui est bafoué, le L350-3. Et bien, au final, il se passe rien. Alors, c'est clair, à partir d'aujourd'hui, je n'ai aucune confiance aux politiques. Et je pense que il va falloir se retrousser les manches. Et des actions comme celles que j'ai menées à Condom, croyez-moi, j'amènerai d'autres.
Alors Thomas Braille, nous sommes en ligne avec l'homme avec lequel finalement vous n'avez jamais discuté encore, c'est le maire de Condom, Gérard Dubrac, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous dans la Terre au Carré. Donc on a appris l'abattage de ces 16 platanes dans votre commune donc ce matin. Il y avait je crois 70 gendarmes qui étaient présents. À partir de 7h30, les tronçonneuses ont commencé à entrer en action. Personne ne s'attendait à voir cet abattage aussi rapide, alors même que vous aviez fait une conférence de presse lundi après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une précipitation? Pourquoi ils ont été abattus ce matin?
Oui, écoutez, il n'y a aucune précipitation. Il y a, d'abord, c'est pas moi qui décide de l'abattage, c'est la personne qui organise, c'est-à-dire les entreprises, le maître d'œuvre qui organise l'avancée du chantier, qui organise les choses en fonction des besoins. Il n'y a eu aucune précipitation, bien au contraire. Par contre, si vous me permettez, je voudrais quand même revenir sur ce que vient d'être avancé comme étant une vérité, qui en fait n'en est pas une, c'est peut-être la vérité pour ce monsieur, mais ça n'en est pas une. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui s'est fait dans la plus grande légalité. L'égalité d'abord au niveau du Conseil, l'égalité au niveau des contrôles de cette légalité par les services de l'État et également par le tribunal administratif. Alors, c'est facile de dire que on a fait n'importe quoi. Nous n'avons pas fait n'importe quoi. L'article L350 a été absolument suivi à la lettre. Et le 411 qu'on nous a sorti à propos des chauves-souris a été également suivi. Ce projet est un projet qui respecte l'écologie, qui respecte la sécurité, qui respecte également le patrimoine de notre ville. C'est un dossier qui a été développé pendant 4 ans et demi avant d'aboutir, qui a fait l'objet, après avoir abouti, à 11 réunions publiques, public où tout le monde a pu être informé, tous les jours de la semaine, parfois le matin, parfois l'après-midi, parfois le soir, même le dimanche. Et donc, on ne peut pas nous dire que ce dossier n'est pas bien. Ce dossier a été mené en toute clairvoyance. Il y a peu de dossiers qui ont été aussi mis au grand jour dans la constitution du dossier, dans la réalisation également. Donc, je veux bien que certains, à la recherche de notoriété, viennent se présenter comme des défenseurs d'une part d'une cause, pourquoi pas, et je partage cette cause, et je partage le contenu de cette cause. Par contre, être défenseur d'une chose ne permet pas aux gens d'être des censeurs des élus, du censeur des institutions, du censeur de l'État, du censeur de tout le monde. Je crois qu'il y a des façons dans notre société de se comporter et qui sont républicaines et d'autres qui ne le sont pas.
Alors, Gérard Dubrac, parce que Thomas Braille va vous répondre. D'abord, une question très vite.
Je n'ai pas envie que M. Braille ne me réponde.
Attendez, moi je vais lui laisser la parole, s'il vous plaît. Gérard Dubrac, est-ce que vous avez obtenu une dérogation pour l'abattage de ces arbres ce matin?
Il n'y a aucune dérogation. Écoutez, aucune dérogation n'a été faite. Ce dossier a été mené normalement avec des demandes d'autorisation, avec un permis d'aménager. Et donc, il n'y a aucun passe-droit, rien du tout. On ne peut pas laisser penser à un seul moment que les élus aient demandé, se soient mis dans une telle situation et que les institutions se soient prêtées à ça. C'est quelque chose que je... C'est pas possible. Les élus font un travail propre, j'ai fait un travail propre, et les conseils municipaux ont fait un travail propre, en toute clarté, et l'État qui a fait son travail à la fois de contrôle et de suivi n'a pas eu d'intention malhonnête ou fermer les yeux sur des choses.
Alors, Gérard Dubrac, intolérable
de laisser dire des choses comme ça.
Gérard Dubrac, restez avec nous en ligne, s'il vous plaît, parce qu'on aimerait quand même pouvoir dialoguer. Je voudrais laisser quand même la parole à Thomas Braille, qui souhaite vous parler depuis un certain temps, comme d'ailleurs beaucoup de gens du collectif Sauvons les arbres de Condon, qui ont eu du mal visiblement à pouvoir dialoguer. Donc qu'est-ce que vous avez envie de répondre au maire de Condon, Thomas Braille?
Alors déjà, je suis ravi de l'avoir au téléphone, puisque ça fait 2 mois que nous essayons de l'avoir, il n'y a qu'à suivre la page Facebook. Hein. On est allé plus de 11 fois en mairie, tout ça a été filmé, on n'a jamais eu la possibilité de vous parler, donc je ne sais pas s'il était en communication.
Si, monsieur Dubrac. Il nous entend.
Voilà, je suis ravi donc de vous avoir au téléphone, bien sûr. Sachez, monsieur Dubrac, que vous dites que tout a été fait en conformité par rapport à l'article L350-3. Si tout avait été en conformité, les arbres seraient debout à l'heure actuelle. Donc, monsieur Dubrac, je vous ai laissé parler, je vous demande de me laisser parler, s'il vous plaît, et je continuerai à dialoguer.
Thomas Braille, juste 2 minutes.
Ensuite, vous parlez que tout a été fait dans les règles. Le rapport de l'ONF stipule que tous les arbres sont sains, sauf un. Vous avez abattu 16 arbres aujourd'hui. Et en plus de cela, je trouve ça totalement indécent d'avoir envoyé les photos de l'abattage de ce matin. Nous savons tous très bien, en tant que citoyens français, ce qu'est un arbre au sol, ce qu'est une tronçonneuse. Je trouve que vous vous comportez très très mal, et je trouve regrettable, et je ne sais pas quelle va être la réaction de vos enfants, si vous en avez, monsieur Dubrac, mais sachez que l'histoire parlera de vous comme quelqu'un qui n'est pas forcément une personne respectueuse de l'environnement. Je vous remercie.
Alors, Gérard Dubrac, quelles étaient les raisons exactes finalement de l'abattage de ces 16 arbres? Voilà, c'était quoi l'urgence pour vous? En quelques mots, parce que le temps avance.
Non, il n'y a aucune urgence. Le déroulé de ce chantier qui consiste à rendre une promenade sur à peu près 2 hectares de chantier. Nous avions cette promenade qui, depuis 2 siècles, s'est transformée d'un lieu pour piétons à un lieu pour voitures. Depuis 50 ans, il y a du goudron partout, il n'y a plus de banc, il n'y a plus rien. Et les arbres ont été massacrés d'abord par le goudron sur les racines, ensuite par des coups et par une taille beaucoup trop féroce pendant tout ce temps. Nous avons pris une décision de rendre tout cet espace aux piétons, ou presque tout l'espace aux piétons. Et pour ce faire, nous avons fait faire un contrôle par l'Office national des forêts qui nous a classé les arbres en étant certains dangereux, certains sans avenir, d'autres avec avenir.
Alors il y avait un arbre dangereux, enfin il y avait un arbre malade pour l'ONF, il n'y en avait pas plusieurs, il y en avait un seul.
Non, mais il y avait un arbre malade et des arbres sans avenir. Donc nous avons enlevé, et les photos aujourd'hui qui montrent des arbres complètement creux. Je vous rappelle que chaque semaine, il y a en France des accidents d'arbres qui tombent sur le lieu public. Plus chaque mois, et depuis 3 mois, il y a au moins 5 ou 6 morts en France. Vérifiez-le, allez taper sur Google.
Alors,
vous verrez bien le nombre d'accidents qu'il y a avec des arbres, même dans le Gers. Nous avons eu un jeune qui s'est fait tuer cet été. Alors, pour terminer, notoriété aujourd'hui, est-ce que c'est défendre une cause, est-ce que c'est faire deux grèves de la faim bidon, une qui commence à 9h qui finit à 12h30 et l'autre qui commence à 14h pour finir à 19h. Deux grèves de la faim bidon. Est-ce que faire une photo bidon d'une chauve-souris avec son téléphone portable et nous présenter ça comme étant une invasion de pipistrelles est normal? Alors... Est-ce que laisser croire aux gens que le non-respect à la loi qui voudrait dire que les services de l'État seraient complices, est-ce que c'est respect?
Allez,
est-ce
la réponse de Thomas Braille, parce qu'il nous reste que quelques secondes. Merci Gérard Dubrac.
Alors, pour en revenir
pour
aux arbres... Pour en revenir aux arbres, monsieur Dubrac, donc vous avez dit que j'ai fait des photos de pipistrelles, c'est clair, mais moi j'ai fait un travail de cordiste, j'étais proche du tronc, bien entendu. Vous avez fait venir une entreprise qui a travaillé en nacelle, qui était très très loin du tronc et qui n'avait même pas d'endoscope. D'accord. Donc, voilà, je...
Est-ce que vous allez continuer d'autres actions?
Alors, bien entendu, on va continuer d'autres actions, parce que quand j'entends des propos qui sont tenus comme ça, on ne peut que se féliciter de continuer à faire des actions, bien entendu, c'est clair.
En tout cas, vous allez retrouver votre famille, hein. C'est surtout ça le principal aujourd'hui. Ouais. Et puis on salue tous ceux qui vous écoutent, le groupe national de surveillance des arbres, hein, parce qu'ils sont nombreux aussi à s'émouvoir de ce type de situation. Merci en tout cas Thomas Braille d'être venu, et merci à vous également Gérard Dubrac. Allez, dans un instant, la marche de l'histoire.